Très bonne fin de soirée, Judith Chen, et à samedi prochain, évidemment.
France Musique.
À l'improviste va ouvrir ce soir, encore une fois, sa galerie de portraits. Et le projecteur va s'arrêter cette fois sur le parcours de la contrebassiste Hélène Labarrière, personnalité généreuse et rieuse, à la fois, de la scène improvisée, aujourd'hui installée en Bretagne et née un beau jour de l'année 1963 à Neuilly-sur-Seine, dans une famille de quatre garçons. C'est grâce à ces garçons, justement, que la musique est entrée dans la maison familiale. Et puisque le piano était régulièrement pris d'assaut, eh bien Hélène n'a pas eu le choix. Il lui a fallu ruser et elle a choisi son instrument. Sur un coup de tête, elle décide d'apprendre la contrebasse. Elle a 16 ans à l'époque. Et la suite, eh bien, c'est Hélène Labarrière qui nous la raconte elle-même.
À l'improviste. Anne Montaron.
Hélène Labarrière.
J'habite vraiment, je vais carrément dire le nom de mon, non pas village, puisque là-bas on dit pas village, on dit bourg. J'habite en dehors du bourg de Spézette. Le village, lui, s'appelle Poulenserf. Et donc c'est en pleine campagne et j'y suis allée pour des raisons tout à fait personnelles. Donc vous imaginez bien lesquelles, puisque j'ai rencontré un magnifique breton. Voilà, je vis à la campagne, ça me permet d'avoir une vie quand même à la fois très proche de la nature, des plaisirs de la vie importants, surtout en dehors de la musique. La gourmandise a une très très grande part dans ma vie, donc vivre à la campagne me permet de manger des bons produits de mon jardin, de faire des conserves, etc. Et puis ça ne m'empêche pas du tout de faire de la musique, bien au contraire, puisque ça me permet d'être dans un univers très différent. Là-bas, je travaille avec des musiciens qui, eux, sont vraiment, sans être pour autant des musiciens dits de musique traditionnelle, en tout cas issus de musique traditionnelle. Donc en fait, cette installation m'a permis de naviguer dans d'autres horizons qui sont la musique bretonne, mais aussi balkanique, voire écossaise. En ce moment, j'espère que j'aurai l'occasion de parler de ce magnifique projet. Et voilà, de côtoyer des musiciens d'un tout autre milieu que celui du jazz et des musiques improvisées. Voilà, chaque réseau a ses manières de faire. Il est vrai que dans cette région où il y a une vraie identité qui peut être à la fois fascinante et également complètement agaçante. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté, parce qu'aussi la musique est beaucoup plus dans le quotidien.
Oui.
Et que ça, c'est quelque chose qui me manquait et qui nous manque. Une fête avec des amis, un anniversaire, il y a forcément quelqu'un qui va sortir un instrument et qui va jouer. Et si on est nombreux et que c'est une gavotte, tout le monde va se lever et danser la gavotte, que ce soit dans un appartement autour d'une table ou lors d'un banquet, dans une fête. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment génial, parce que c'est un rapport très naturel.
Alors tu retrouves là le plaisir initial de la danse, parce que tu as fait beaucoup de danse quand tu étais gamine.
Ouais. Ouais. Alors je retrouve en tant que spectatrice et qui va au bal. En fait, le Fesno, c'est un bal. Et donc, moi, quand je vais au bal, je danse. Et donc, effectivement, je retrouve un très, très grand plaisir. Mais c'est pas seulement retrouver un plaisir, c'est découvrir aussi autre chose. Parce que la particularité du Fesno, c'est que c'est collectif. C'est très collectif. C'est pas une danse seule. C'est une danse en chaîne, c'est une danse en cercle. C'est beaucoup de gens à faire exactement la même chose tous ensemble. Et là, je retrouve quelque chose de très, très puissant. Je trouve une notion de transe. C'est-à-dire quelque chose de fort comme ça qui emmène tout le monde dans la même direction. Et au-delà de ça, je retrouve aussi une notion qui est celle avec laquelle vraiment j'ai débuté dans la musique et dans le jazz, c'est le groove. Voilà, cette notion de groove et de danse qui était mes tout premiers concerts, c'était avec Gérard Badini au caveau de la Huchette. Et on jouait du swing et les gens dansaient. Et il fallait groover, il fallait avoir un super bon tempo parce que sinon, les gens ils ne dansent pas et donc on n'est pas rappelé le lendemain. Donc. C'est différent et c'est la même chose.
Et évidemment, ce groove dans le quartet de Jackie Mollard, donc, dans ce groupe-là, il y a du groove, évidemment.
Ah, il y a vraiment beaucoup de groove. Alors, c'est pas du tout un groupe de Fesno, c'est pas du tout un groupe de danse, ça serait de la musique de concert. On ne joue pas de musique traditionnelle, je dirais, en l'état, c'est vraiment retraversé. Et puis, il y a beaucoup de compositions de Jackie, qui a donc son propre univers. Et puis, on y intègre beaucoup de musique traditionnelle, d'Est et d'Ouest, c'est-à-dire que ça peut être des airs bretons, ça peut être des airs écossais, ça peut être des airs irlandais, ça peut être des airs balkaniques de pas mal de régions, où on joue aussi un vieil air judéo-espagnol du 15e siècle, enfin voilà.
Oui, les terres bretonnes sont ouvertes sur la mer et donc il y a pas mal de croisements.
Exactement. Voilà, donc, et effectivement, le groove a une part très importante. Et c'est un quartet intéressant parce qu'il y a effectivement Jackie au violon, mais il y a aussi Yannick Jory au saxophone, qui est un musicien extraordinaire. Et c'est vraiment très intéressant de l'entendre parce qu'il a un son qui est complètement différent de tous les sons de saxophonistes dits de jazz. C'est vraiment, il est complètement ailleurs, une manière de phraser, d'improviser qui est très différente. Et puis il y a ce magnifique accordéoniste diatonique, Yannick Martin, qui est vraiment un musicien qui a des qualités vraiment incroyables rythmiquement. Et donc on est vraiment, la rythmique, c'est pas basse-batterie, c'est accordéon contre basse. Et vraiment, c'est une notion très importante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Yannick, lui, vient d'une autre région de la Bretagne, plutôt vers le pays de Redon. Donc en fait, ses phrasés, les airs que lui connaît, ce ne sont pas les mêmes que ceux de Jackie. Et c'est encore d'autres richesses à découvrir.
Prononcer le nom de rythmique ou le mot de rythmique, c'est important ça quand on est contrebassiste, parce qu'il y a des contrebassistes de la scène improvisée, tu le sais, qui n'ont pas envie de jouer ce rôle-là, le rôle de rythmique. Alors,
Ouais.
Et toi, ça ne t'a jamais gêné de poursuivre les deux en parallèle.
Alors, je dirais que ce n'est pas tout à fait juste. Si je suis tout à fait honnête, il y a un moment où ça m'a un petit peu gênée. Je dirais maintenant, je viens du jazz que maintenant je qualifierais effectivement de traditionnel, du swing, du bebop. Les premiers musiciens avec qui j'ai joué, ce sont des musiciens de la scène du jazz français de l'époque. Donc c'était Gérard Badini, c'était André Villéger, c'était Alain Jean-Marie, c'était des musiciens qui jouaient et qui jouent toujours dans les jazz clubs parisiens des années 80. Et j'ai grandi et appris la musique avec ça. Et j'ai, sans doute parce que j'ai toujours été attirée par la danse, aimé ça. Et puis, voilà, les années ont passé, j'ai eu envie de faire quand même d'autres choses, parce que j'étais quand même très jeune, j'avais à peine 20 ans, et en même temps que je jouais avec ces musiciens-là, j'écoutais quand même vraiment d'autres choses, et d'autres musiciens beaucoup plus
aventureux,
modernes. Oui. Et puis j'ai toujours écouté de la pop musique, et j'ai toujours continué à en écouter, donc voilà, je suis allée après vers d'autres musiques, et petit à petit, avec des musiciens plus jeunes, c'était des musiciens comme Éric Barret, comme Malo Valois, comme Marc Ducret, qui étaient à l'époque, voilà, qui avaient une trentaine d'années. Et puis, on a évolué ensemble. Et puis, tout ça, à chaque fois, c'est comme des petites portes qui s'ouvrent. Et puis, plus ça a été, et puis plus je suis allée vers des musiques de plus en plus improvisées. Et puis, il y a eu un moment où, effectivement, je jouais plus du tout de jazz, plus du tout dans les jazz clubs, plus du tout de standards. Et je suis allée vers des choses de plus en plus improvisées. Et puis, à un moment, voilà, j'ai dit, ah non, moi, je veux plus jouer comme ci, je veux plus comme ça. J'ai pris des décisions formelles, en fait. Et puis, une fois que j'ai eu plus besoin de dire pas de ci, pas de ci, pas de ça, je me suis dit, bah non, au contraire, c'est super. Rajoutons tout. C'est, de toute façon, c'est moi. Moi, je fonctionne pas avec des interdits. J'assume complètement cette fonction. Moi, j'appelle ça vraiment ça, une fonction de bassiste, qui, pour moi, est la même dans plein de musique. Je me sens... pour moi, la fonction de bassiste, que ce soit dans le rock'n'roll, que ce soit chez Mozart, que ce soit chez Charlie Parker, ou que ce soit, je ne sais pas, on pourrait citer des... C'est la même chose. Donc, j'assume cette fonction et j'aime aussi assumer d'en sortir et de choisir de ne pas l'être. Pour moi, c'est ça la clé. C'est choisir où est-ce que je me place. En contexte, je pense que j'ai eu beaucoup de chance que les problèmes ont été aussi des avantages. Et effectivement, d'être une très jeune fille, parce que vraiment 20 ans, quand je jouais dans les clubs de jazz parisiens, à la contrebasse, je pense que c'était très incongru et que les gens se rappelaient de moi à cause de ça, plus de peu importe si je jouais comme ci ou comme ça. Mais je pense que ça amusait un petit peu tout le monde. Cette jeune fille. Et il y avait à l'époque beaucoup de musiciens américains à Paris, et j'ai joué avec beaucoup de batteurs américains qui étaient à Paris, Barry Atschul, George Brown, Oliver Johnson, beaucoup, et je crois que ils aimaient bien jouer avec moi, parce que je pense que j'avais quand même un bon tempo, même s'il y avait beaucoup de flou sur beaucoup de choses, mais du fait d'avoir ce truc un peu bizarre, quoi. C'était à la fois peut-être une difficulté, parce que c'était effectivement, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes, etc. On ne va pas parler de ça pendant trop longtemps, mais c'est quand même une réalité. Et en même temps, c'était un avantage, parce que effectivement, on se rappelait facilement de moi. Yeah.
Contrebassistes qui t'ont marqué, mais pas que des contrebassistes.
Ouais.
Et parmi ceux-là, Charlie Haddon. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, Charlie Haddon, c'est effectivement un bassiste qui m'a beaucoup marqué parce que quand je l'ai découvert, j'écoutais vraiment et je jouais vraiment du bebop, du hard bop, des choses comme ça. Et j'écoutais à l'époque Ron Carter, Paul Chambers, voilà, des bassistes comme ça. Et un jour, quelqu'un m'a fait écouter le disque de Metheny 80-81, et c'est comme ça que j'ai découvert Charlie Haddon. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait jouer, être bassiste et assumer cette fonction de bassiste en se plaçant et en jouant autre chose qu'une walking bass, quoi.
Oui.
En fait, c'est vraiment ça. C'est passer de la walking bass, de jouer les quatre temps comme ça, et de voir que, en fait, on peut être là dans quelque chose de beaucoup plus mouvant, de beaucoup plus, de très très différent. Et là, ça a été vraiment un déclic. Dire, ah oui, je peux être cette fonction de bassiste, mais autrement. Et puis évidemment, le son, la puissance du son, enfin voilà, ça a été vraiment quelque chose de très très déterminant pour moi. J'ai oublié de citer Daniel Humer,
oui,
avec qui j'ai beaucoup joué et qui justement, quand j'étais très jeune, m'a beaucoup, m'a vraiment donné ma chance,
oui.
M'a vraiment aidé. J'étais très jeune là vraiment et je jouais comme je disais vraiment des musiques très classiques, mais lui non. Mmh. Il était déjà, il jouait avec Jean-François Généclair, qui jouait avec Joachim Kühn, il jouait avec Portal, il était complètement ailleurs. Et ouais. Il m'a confronté au fait qu'il fallait jouer vraiment des tas d'autres choses différemment. Et c'est vraiment lui qui m'a lancé dans des choses beaucoup plus déstructurées. Et qui m'ont posé énormément de problèmes parce que je sais chercher à structurer des choses et donc ça a été un grand gouffre qui s'est ouvert.
C'est ça, quand on plonge dans le vide,
voilà.
C'est bien d'avoir une main tendue.
Exactement. Donc voilà, c'est très important parce que c'est un immense batteur et tout à coup de jouer avec un son unique comme ça, c'était vraiment incroyable. Voilà, c'est quand même très très important. J'ai jamais écouté beaucoup de disques et donc en fait tout ce que j'ai découvert c'est en direct quoi. Quand j'avais 16-17 ans, j'ai passé une première nuit blanche dans un club de jazz, j'ai vu un contrebassiste, j'ai dit bon bah ça c'est ça que je veux faire. Après j'étais directement dans les clubs, discuter avec les musiciens, c'était très direct, c'était Albicula, c'était Jean-François Généclair, c'était Jean-Paul Céas, c'était Henri Texier, etc. Ces discussions-là. Après tout à coup, un jour j'ai vu Paul Rodgers,
oui.
Par exemple dans les grandes années des Instants Chavirés, dans les années 90, quand j'ai vu Paul Rodgers par exemple, c'est un déclic aussi important finalement que Charlie Haddon. Mmh. Mais je l'ai vu jouer, je l'ai vu directement. Très peu de temps avant son départ, j'ai vu Peter Kowald. Ah oui, là c'est pareil, c'est des grands chocs comme ça. Et la musique contemporaine, c'est pareil. J'ai eu la chance de rencontrer Bernard Cavanagh, J'ai écouté le trio Aller-Retour. Mmh. Ça, c'est un disque qui ne me quitte pas. Ce trio, pour moi, il y a un mouvement dans ce trio que je peux écouter en boucle. Et je peux l'écouter comme j'écoute en boucle Robert Wyatt, qui ne me quitte pas depuis mes 14 ans. Et pour moi, il y a entre ce mouvement du trio Aller-Retour de Cavana et Robert Wyatt, pour moi, c'est la même chose. Ah, il y a un lien, mais qui est complètement, complètement direct. Après, Sylvain Cassap m'a fait écouter des choses. On a travaillé avec Ars Nova, etc. Bon, voilà, ce sont des liens comme ça, très empiriques et très charnels, je dirais. Il y a un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas bien. J'étais pas bien dans la musique. Je n'arrivais pas à me concentrer. J'étais pas à ma place, en fait. Il y avait vraiment un conflit, une difficulté à être là au moment présent.
Oui.
Vraiment une vraie difficulté à jouer en étant complètement là. Et en fait, je me suis rendu compte que je jouais pas ce que je devais jouer, quoi. Et puis j'ai fait d'autres rencontres. Une rencontre très importante, ça a été une association de musiciens qui n'a pas duré longtemps, mais qui s'appelait Incidence, dans laquelle j'ai quand même rencontré Sylvain Cassap, François Corneloup, qui sont donc des grands, grands camarades d'aujourd'hui et des grands partenaires, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on joue ensemble. Et puis il y avait aussi d'autres musiciens. Et là, je me suis retrouvée dans une ambiance où les questions se posaient autrement, où on faisait les choses collectivement. Et j'ai commencé à aller de plus en plus vers des inconnus. Et je me suis rendu compte que plus j'y allais, et mieux j'étais, et plus j'étais là, quoi. J'étais plus à ma place, je me sentais de mieux en mieux. J'avais tout d'un coup plus ces problèmes de concentration avec l'esprit qui s'évade. Non, non, j'étais bien là au moment. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bon, bah voilà, il faut aller plus loin. Donc là, je joue des notes, bah, je vais essayer des bruits. Là, bah, je ne joue pas d'archet, puis je vais prendre un archet. Parce qu'en fait, je n'ai pas un grand bagage technique classique. Donc, j'ai pas joué du tout avec un archet jusqu'à pendant 15 ans.
Ah oui.
Donc j'ai sorti l'archet, puis j'ai commencé à travailler, puis je continue toujours. Et voilà, je me suis rendu compte que la musique, peut-être c'était pas que des notes, c'était aussi des timbres, c'était de l'espace, c'était du placement, justement. C'est là que j'ai commencé à avoir un petit peu conscience de ça. Mais c'était une nécessité, je dirais vraiment physiologique, quoi, parce que sinon j'aurais arrêté la musique parce que je m'y retrouvais plus, quoi.
Oh, le générique.
On se fait un peu tout seul comme ça, parce que malgré tout, tu t'es faite toute seule avec tes frères et avec quelques mentors et surtout quelques rencontres, hein, au gré des rencontres. On est peut-être plus apte à devenir leader. Alors cette fonction de leader, c'est une chose un peu compliquée pour moi, mais qui fait partie du jazz, le leadership, on appelle ça comme ça. Finalement, tu y es arrivée avec ton premier groupe Machination, hein, et là, ça a été un sacré cap de franchi. On peut parler de ce statut de leader, tout d'un coup.
Alors, moi, je suis comme toi. C'est un truc qui est compliqué. Je suis assez d'accord avec ça. C'est une chose que j'assumais absolument pas du tout, dont je me sentais totalement incapable pendant très longtemps. Et puis c'est le hasard qui m'a conduit à faire ce groupe Machination. C'est vraiment, c'est même une grande, plus que le hasard, c'est une grande chance que m'a donné Franck Tortillet, qui était à l'époque dans ce collectif Incidence, avec qui on faisait des, donc dans ce collectif on partageait des soirées un peu comme ça, et puis il avait bien aimé une des soirées que j'avais fait et il m'a dit je te donne une carte blanche dans mon festival. Et là je me suis dit je suis obligée d'accepter, si je refuse je vais m'en mordre les doigts toute ma vie. Donc j'ai accepté, mais ça a été terrible quoi. J'ai passé un an à me ronger les seins, comment je vais faire, etc.
Et ça voulait dire écrire de la musique.
Ça voulait dire pour moi écrire de la musique. C'était une nécessité. Et donc, c'est un peu la première fois que je l'ai fait. J'avais écrit avant ça peut-être deux morceaux. Et ça a été terrible. C'était vraiment la page blanche, le piano muet, etc. Et c'était. Et puis voilà, j'ai écrit des petits bouts de trucs, quoi.
Thank you.
Bon, Machination, évidemment, c'est pas complètement du hasard. Hein. On a parlé de Robert Wyatt, oui. Donc il y a Soft Machine, après il y a Matching Mole. Donc voilà, c'est Machination. Donc j'avais cette envie d'un quelque chose de, d'un peu pop, un peu rock, un peu improvisé, un peu voilà. Et j'ai écrit des bouts de machin et j'ai essayé de trouver comment les lier les uns aux autres. Et puis j'ai rencontré des gens qui étaient super partants pour faire ça avec moi. Noël Achoté à l'époque, Ingrid Jensen, Peter Gritz et Corinne Courchelas. Il y avait donc une chanteuse, mais il n'y avait pas de tête. Je n'ai pas écrit du tout de chanson, mais c'était déjà un rapport à la voix. Mais oui. C'est elle qui choisissait ou des articles de journaux, des machins. Ce n'était pas de la chanson. Et puis, en fait, ça m'a... ça, c'est ça, vraiment un truc qui m'a complètement obligée à me poser des tas de questions. Et, mais en même temps, avec un désir de... quelque chose qui circule de, extrêmement collectivement, quoi. Et donc, ce truc de leadership, pour revenir à cette question plus précise, c'est un petit peu... forcément, il y a des petits bouts de machin qui sont écrits, donc c'est une couleur qui est donnée. Et cette couleur, je la donne un petit peu en pâture. Et puis, on en discute, et puis elle va, tout ça, ça va se transformer. Et puis, si vraiment, à un moment... ça se transforme à un endroit où j'ai pas envie, là je vais dire oh bah c'est mon groupe, bah non, là ça non. Mais ouais. Voilà, j'essaye de...
Il y a quand même une grande liberté entre...
Oui, ouais. Ouais. Ouais,
entre,
ouais.
Entre les musiciens.
Ouais. Je suis pas sûre d'avoir une âme de... Je sais pas si c'est ça être leader ou pas, mais en tout cas pour moi c'est juste une impulsion, c'est le choix de dire machin, machin, machin ensemble, c'est avec eux que j'ai envie d'être. Tiens, voilà mes petits bouts de trucs. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Mais si mes petits bouts de trucs, je les donne à quatre autres personnes, ça n'aura rien à voir, quoi.
De trois jours, bien qu'il a eu soin de la graisse, toujours avec du beurre de première qualité. Seul
novembre 1996, c'est le 60e anniversaire de la mort de l'anarchiste espagnol Buenaventura Durruti. Jean Rochard, le créateur du label Natto et catalyseur d'énergie, décide de lui consacrer un disque hommage. Il réunit un collectif de musiciens, parmi lesquels Hélène Labarrière. Un moment décisif dans le parcours de la musicienne.
En fait, il s'est vraiment passé un truc très magique, c'est que Jean m'avait appelé pour jouer. Donc j'ai enregistré un morceau avec Benoît Delbecq, Carole Robinson, et puis il y avait aussi Violetta Ferrer et Nathalie Richard. Voilà, on a fait un ou deux morceaux comme ça, tous ensemble. Et il y avait Guillaume Orti. Et donc, on a enregistré, c'était super. Et Guillaume m'a donné à lire ce jour-là, enfin il m'a prêté le livre qui n'était pas encore réédité, qui était la biographie de Durruti d'Abel Paz. Et donc, j'ai lu, après avoir enregistré, j'ai lu cette biographie, je suis rentrée chez moi, j'ai lu tout ça et je me suis rendu compte que ça allait vraiment très au-delà de ça, quoi, de ce que j'imaginais. C'était très concret, justement, de lire la vie de Durruti, sa pensée, sa vie. C'est devenu tout à coup beaucoup plus clair pour moi, politiquement. C'est devenu, il y a beaucoup de choses qui se sont éclairées. Et donc, j'ai rappelé Jean. Et je lui ai juste laissé un message sur son répondeur et je lui ai dit « Jean, voilà, je viens de finir la biographie de Durruti et je suis un petit peu triste parce que si je l'avais lu avant, j'aurais pas joué de cette façon-là. » Et c'est tout. Et donc, il m'a immédiatement rappelé, il m'a dit « Tu reviens ?» amène un morceau et tu réenregistres autre chose. Et ça,
formidable.
C'était absolument formidable. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit un morceau que j'ai joué des années après avec mon groupe, mais qui a été enregistré la première fois sur ce disque-là en duo avec Tony Aimas. Et c'est Jean qui a donné le titre, c'est Donde Están Ustedes, et c'est une espèce d'hymne que j'ai joué et que je joue toujours. Et ça, c'était un truc capital, une manière de se rencontrer qui nous a liés à jamais, quoi.
Perder una batalla luchando no debe jamás afectar a un revolucionario, porque un revolucionario debe saber que el arma con la que cuenta es siempre la lucha por la causa en la cual cree.
Là, on a parlé que de musique, mais tout ça, ça ne s'est pas fait que à travers la musique. Ça a été aussi, une prise de conscience plus grande de mon environnement, quoi. Je pense que très jeune, j'étais assez sur la musique, les années 80, etc. Puis après, à un moment, j'ai commencé quand même à regarder un petit peu plus ce qui se passait autour de moi et je me suis rendu compte que c'était pas terrible et que on pouvait pas juste jouer de la musique sans avoir conscience de rien, parce que ça marche pas, parce que c'est pas ça la vie, quoi. Puis après, on habite dans des endroits, moi j'ai toujours habité dans des quartiers populaires, etc. Donc voilà, c'est la réalité sociale, quoi.
Mon rêve va héros dans un autre rêve. Car mon rêve est déjà ton rêve, parce que j'habite mon rêve dans ton rêve, j'habite ton corps dans mon corps. Mon rêve va et roule dans un autre rêve, car mon rêve est déjà ton rêve, parce que j'habite mon rêve dans ton rêve, j'habite ton corps dans mon corps. Mon rêve va et roule dans un autre rêve. Car mon rêve est déjà ton rêve, parce que j'habite mon rêve dans ton rêve, j'habite ton corps dans mon corps. Mon rêve va et roule dans un autre rêve, car mon rêve est déjà ton rêve, parce que j'habite mon rêve dans ton rêve, j'habite ton corps dans mon corps. Mon rêve va et roule dans un autre rêve, car mon rêve est déjà ton rêve, parce que j'habite mon rêve dans ton rêve, j'habite ton corps dans mon corps. Mon rêve va et roule dans un autre rêve, car mon rêve est déjà ton rêve. Parce que j'habite mon rêve dans ton rêve, j'habite ton corps dans mon corps.
Dix ans se sont écoulés entre Machination et Les Temps Changent. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'opportunité de créer ton propre groupe en 10 ans, ou plein de projets peut-être.
C'est surtout plein de projets. Ouais. C'est surtout plein de projets. C'est vraiment là où j'ai été de plus en plus vers des musiques très improvisées. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de concerts avec Sylvain Cassap, beaucoup de projets avec le théâtre et beaucoup de projets avec le texte. Ouais. Et donc c'est là où j'ai commencé à aller vraiment dans d'autres endroits, à rencontrer des comédiens, à rencontrer des danseurs, et là vraiment à pouvoir complètement explorer un champ d'improvisation beaucoup plus grand, justement sans ces bouts de machin écrits.
Oui.
Et là, j'ai énormément improvisé avec des comédiens, des lectures. J'ai eu pas mal d'occasions comme ça.
Le slam aussi, alors
le slam aussi,
des cabales, et c'est, et
voilà.
Ouais.
Alors Jeez, des primes de cabale. Il y a eu des moments vraiment assez drôles où je me suis retrouvée dans une journée, par exemple, à répéter le matin avec Ars Nova dans un projet à l'époque écrit par Claude Barthélémy, et puis de quitter la répétition pour aller répéter avec des slameurs. Et ça, une journée comme ça, c'est génial. Et en fait, c'est ça où je me suis rendu compte que je commençais à être sur un truc un peu comme ça, un espèce de truc borderline.
Oui.
Alors, peut-être touche à tout, mais en même temps qui est sur une espèce de limite comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience de ça. Et puis que c'est là que j'ai rencontré la musique bretonne avec les frères Mollard. Et à me dire, mais finalement, c'est pas que je peux tout faire, mais c'est que je peux retrouver un endroit où je me sens bien partout.
C'est pas du ciné! C'est pas difficile, si ce n'est de plus en plus inespéré! Laisse-moi respirer, reprends mon souffle, j'en souffre comme un volcan! C'est pas dessiné, ça s'est décidé sous nos nez, là où on est. Né. C'est pas la fête, néné. C'est pas du ciné. C'est la réalité, le bruit des pas des gens croient sur terre, ceux qui restent sectaires, adroits ou maladroits, ceux qui opèrent des fragments, des côtés, tiens je te repère, tiens, oh pépère, on y va comme ça doucement, encore une fois dans le pire, dans la porte ou dans l'espoir, ceux qui sont en train de marcher, tourner en rond et même plutôt carré, mais des fois c'est isocèle quand tu veux avancer, respirer, revenir dans le passé, dans le présent et encore une fois te reconfigurer, l'espace-temps pour y aller et dire, j'en ai marre de ciné, j'ai pas acheté mon bon ticket, je voudrais l'indiquer, je vous ai dit que ça sert à rien de niquer, je veux communiquer, je veux m'exprimer, participer, m'extirper, revendiquer, y aller avec tous ces gens, les rencontrer, voyager, ne plus sentir mitigé, y aller comme ça, et envisager de pouvoir encore plus partager, et puis se rencontrer, et de discuter de tous nos problèmes, de toutes nos verrues qui nous collent à la tête jusqu'au cul, et qui reviennent encore nous dire, eh ben oui, c'est bien, ça peut partir, mais avec un bon ciné. Ce n'est pas du ciné. Thank you.
Alors, on vient de parler des collectifs. Le compagnonnage, c'est une notion importante dans ton parcours. Hein. Il y a eu quelques musiciens, Peter Gritz, après il y a eu Sylvain Cassap, oui, évidemment, oui. Qui est un compagnonnage qui dure toujours.
Voilà, voilà. Oui, c'est alors, effectivement, Peter Gritz, c'est un batteur avec qui j'ai joué énormément dans les années 90. C'était la rythmique comme ça, vraiment appelé très souvent en binôme. Et puis après, des musiciens comme Sylvain Cassap, et puis aussi François Corneloup. Oui. Et puis maintenant, Christophe Marguet, évidemment, Asse, Poulsen. En fait, je crois que le temps en musique est absolument irremplaçable et j'y crois énormément. Et je crois à la rencontre, à l'éphémère. J'adore ça, c'est génial. Mais ce qu'on fait sur la durée, c'est 10 ans de vie musicale ensemble, 15 ans, 20 ans, c'est irremplaçable. Et dans toutes sortes de musiques, j'ai entendu sur cette même chaîne un concert magnifique l'autre jour de l'ensemble Accroche-Notes. Et j'entendais, avec des musiques contemporaines, les auteurs d'Amérique latine, j'entendais la manière d'Armand Angster et de Françoise Kubler de jouer ensemble une partition. Mais c'est fabuleux. Et c'est fabuleux parce que ce sont de grands musiciens, mais c'est aussi fabuleux parce que c'est 25 ans de vie musicale commune et c'est irremplaçable. Et quand je joue avec Sylvain, on a tout de suite un son. On joue comme on joue, mais on ne peut pas remplacer ce temps. Avec François, c'est pareil. Avec le quartet de Jackie, ça commence à être la même chose aussi parce que c'est 10 ans d'existence. Et donc, c'est une grande tristesse d'avoir autant de difficultés à faire vivre les projets sur la longueur. Oui. Parce que c'est au moment où on joue le mieux ensemble, c'est le moment où on est de mieux en mieux ensemble que on se sent abandonné parce que voilà, on est quand même dans un monde très toujours un nouveau truc, toujours un nouveau projet, toujours un voilà, et ça ça marche pas pour la musique.
Oui.
Ça marche pas. C'est comme l'amour, c'est comme un couple. One night lover, c'est génial, c'est super. on est tous contents de ça et tant mieux. Mais construire quelque chose sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est irremplaçable. Et on peut faire les deux. Surtout en musique, c'est plus facile de faire les deux.
chanson réaliste, est au cœur de ton duo avec Violaine.
Ouais.
Violaine Schwartz. Et là, c'est vraiment un projet qui tranche sur tout le reste. Hein.
Ouais.
C'est vraiment, il a sa singularité.
Ouais.
Magnifique duo. Et là, la contrebasse, elle a quel rôle pour toi dans ce duo-là, dans ce tandem-là?
Elle a tous les rôles,
ouais.
Justement. C'est complètement transversal. C'est vraiment le duo. C'est réellement un récital, au sens où ce sont vraiment des chansons, des formats de chansons. C'est-à-dire que nos morceaux, ce sont des chansons réalistes. Donc, on a gardé quand même les formats. C'est-à-dire qu'un titre va faire entre 3 minutes et 5 minutes, pas plus. Donc, c'est des morceaux courts. Mais c'est vraiment un dialogue entre le texte chanté et dit par Violaine. Et quand je dis « dit », c'est toujours chanté, mais c'est-à-dire que Violaine, étant comédienne, sait vraiment faire oui. entendre un texte, ce qui est très rare chez les chanteurs. Et la contrebasse, bah, justement, elle est transversale, donc elle a complètement... C'est un contrepoint, mais ce sont des chansons, il faut pouvoir les chanter. Donc, s'il faut jouer une basse, on joue une basse, si on joue une mélodie, si c'est improvisé. Mais je trouve des systèmes qui font que Violaine peut chanter.
Quand je l'ai connu, j'ai bien compris que c'était un homme trop à la cool. Mais y'avait pas, le cœur était pris, j'étais comme folle, j'étais comme saoule. Si bien que dès qu'il l'a voulu, d'un geste il a fait de moi sa femme. J'étais une loque, je ne pensais plus, une bête en rut, sans cœur, sans âme. Alors tristement, sans savoir comment, suis senti partir à la dérive. Quand il me prenait, plus rien n'existait, car j'étais son bien, sa chose comme une captive. Et depuis ce jour-là, je m'en vais tout doux. Là-bas, je ne sais où, à la dérive. Il a fait de moi une fille de rien, il a fallu que je turbine, à turbiner, oh quel destin, pour l'amour je suis bien une machine. Et j'étais pas fainéante pour lui, je souriais cachant ma détresse. Lorsqu'un beau soir, voilà qui me dit, moi j'en ai marre de tes caresses. Le cœur chaviré, tout s'est effondré. Et je me suis sentie partir à la dérive. Parmi la douceur des grands flots berceurs, à laisser rouler, glisser comme une captive l'épave qui s'en va tout doux, là-bas, là-bas, vers le grand trou, à la dérive.
Passe très vite lorsqu'on accueille Hélène Labarrière dans un studio d'enregistrement. La musicienne a tellement d'histoires à raconter. Des histoires d'engagement, des histoires de rencontres, des doutes aussi. Et puis il y a les projets, cette manière de se projeter loin dans le temps comme le caillou sur l'élastique du lance-pierre, avec gourmandise et avec impatience. Des projets, Hélène Labarrière en a un certain nombre. Avant de quitter le studio, elle évoque par exemple son envie de créer avec son quartet Les Temps Changent un répertoire de chansons. Mais les désirs ne s'arrêtent pas là, il y a aussi l'envie d'improviser en duo avec le joueur de cornemuse Erwan Keravec, dont à l'improviste a déjà croqué le portrait cette saison. Mais ce qui fait briller le plus peut-être les yeux d'Hélène Labarrière ce jour-là, c'est un autre projet qui associe un autre joueur de cornemuse, Patrick Mollard.
C'est un projet de Patrick Mollard, qui est donc le frère de Jackie Mollard, qui est un très très grand joueur de cornemuse, vraiment un maître, comme on pourrait dire, et qui est spécialisé particulièrement dans la musique du pibroch, c'est-à-dire la musique classique pour cornemuse. Oui. Ce n'est pas de la musique traditionnelle, ce n'est pas la musique, c'est pas la musique des bagades, c'est vraiment une musique très particulière qui date du 15e siècle et qui est de la musique pour cornemuse solo. C'est la grande musique classique de cornemuse. Et donc, Patrick a eu envie, et ça fait très longtemps qu'il a cette envie, de partager cette musique avec d'autres musiciens. Et donc, on a monté un projet avec Jackie Mollard, Éric Daniel à la guitare, Simon Goubert à la batterie, Yannick Jauré au saxophone et moi-même autour de cette musique. Et pour cela, on est vraiment aller au cœur de la musique en apprenant, donc évidemment c'est une musique qui se transmet oralement, quoi qu'elle ait été inscrite oui. Dans un livre à un moment, et qu'on a transformé, et on va bientôt créer ce projet qui s'appelle le Kyolmor. Et en fait, j'ai juste envie d'en parler parce que c'est une sensation incroyable de découvrir une musique de l'intérieur comme ça, qui date quand même du 15e ou 16e siècle, qui est complètement inconnue, et d'en faire quelque chose. Et on est tous sous le charme parce qu'on a vraiment l'impression de... On joue des morceaux qui n'ont jamais été joués, par exemple. Oui, oui. Et c'est vraiment une sensation très, très forte. Donc voilà.
Hélène Labarrière a quitté notre studio. Son rire irrésistible est encore accroché aux parois et semble ne pas vouloir quitter les lieux. La table du studio se souvient quant à elle de ses coups de pied impétueux accompagnant la parole. Car plus encore qu'une musicienne et une improvisatrice, Hélène Labarrière est une nature, une flamme ardente et généreuse, une gourmande de la vie et des sons. C'est Françoise Cordet qui a réalisé ce portrait d'improvisatrice, à ses côtés Michel Mestre, Aurore Denisot et Soisic Noël. Il est minuit, la nuit vous ouvre grand ses bras, attention, ils sont pleins de musique.